Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue sur RCJ en ce vendredi 13 juin, il est 8h.
La matinale info, Elsa Parienté.
Et au programme de cette édition, à l'actualité en Israël, on parlera bien sûr avec notre correspondante sur place, Emmanuel Hadda, de l'attaque israélienne lancée sur plusieurs sites nucléaires iraniens cette nuit. Et la riposte iranienne, une centaine de drones qu'Israël tente d'intercepter. Les enjeux de ce nouvel événement majeur au Moyen-Orient, on les décryptera également avec Mohamed Sifaoui, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient et de l'islamisme. Puis, on avait prévu d'évoquer la marche des fiertés Tel Aviv avec Alain Beit, président du Beit Haverim Pride, annulé en raison de la situation sécuritaire. On en dira quand même quelques mots en fin d'édition, puis ce sera l'histoire juive de Jérôme Attal. Et on prend la direction d'Israël, où on vous retrouve Emmanuel Hadda. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs.
L'état d'urgence a été déclaré en Israël à la suite de ces attaques qui ont été lancées dans la nuit contre des sites nucléaires iraniens. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui a fait qu'Israël a décidé de mener cette action et quelles sont les conditions aujourd'hui de vie des Israéliens à l'instant T?
Alors, comme vous le savez, Elsa, le nom de l'Iran était sur toutes les bouches depuis plusieurs jours, avec beaucoup d'informations contradictoires et de messages déroutants. Israël allait-il attaquer l'Iran ou pas? Les Américains seront-ils avec nous? Mais cette nuit, il n'y avait plus aucun doute. La guerre Israël-Iran a commencé. L'opération s'appelle Am Kelavi, un peuple comme une lionne qui se lève, a donc été lancée. Mais revenons sur le déroulé chronologique pour bien comprendre en quelques minutes comment Tsahal a réalisé une opération militaire de grande envergure avec une frappe d'ouverture très réussie. À 1h58 du matin, des alarmes ont été déclenchées dans tout le pays avec un message d'un genre nouveau qui a été envoyé sur les téléphones des citoyens israéliens par le commandement du front intérieur. Ce message disait « alerte d'urgence très grave ». En raison des préparatifs en vue d'une menace importante, les instructions du commandement du front intérieur doivent être immédiatement suivies. En quelques minutes, des millions d'Israéliens se sont rendus dans leurs abris, en pyjama, avec des enfants dans les bras ou en soutenant des personnes âgées. Une nuit blanche nous attendait. À 2h01 exactement, Israël Katz a signé un décret spécial, instaurant l'état d'urgence spécial sur le front intérieur dans tout l'état d'Israël. Les instructions du commandement du front intérieur et des autorités devaient être donc respecté et le cabinet du ministre de la Défense devait rester dans des zones protégées. Tout de suite après cette annonce, l'armée de l'air a lancé une série de frappes en Iran. Quelques minutes plus tard, les directives comprenaient l'interdiction de longs déplacements, l'interdiction des activités éducatives, les rassemblements sur les lieux de travail, à l'exception des commerces essentiels. À 2h15, le cabinet politico-sécuritaire s'est réuni pendant que l'armée de l'air attaquait l'Iran. À 2h20, les premières images d'Iran arrivaient sur les réseaux sociaux. L'agence de presse iranienne Tasnin a rapporté des explosions entendues à Téhéran et le déclenchement des défenses aériennes de la ville. L'agence de presse Saberin, qui est elle affiliée aux milices pro-iraniennes en Irak, a fait état d'explosions dans le quartier de Shahid Malarti, au nord-est de la capitale iranienne. À 2h26, l'espace aérien israélien a été fermé au décollage et aux atterrissages jusqu'à nouvel ordre. Des milliers d'Israéliens sont alors bloqués à l'étranger pour une durée indéterminée. À 2h27, l'armée israélienne donc annonce cette opération Am Kelavi pour cibler les programmes nucléaires et les missiles iraniens. L'armée israélienne a déclaré qu'il s'agissait d'une opération ciblée et précise visant à endommager les capacités nucléaires et les cibles de missiles longue portée de la République islamique. Et tout s'est joué en dialogue étroit avec les Américains et en bonne coopération avec eux. Le premier ministre israélien a pris la première fois la parole à l'attention du public. Il a déclaré « Nous attaquons maintenant en raison des progrès et de l'accélération du programme d'armement nucléaire de l'Iran ces derniers mois. Ils disposeront d'ici quelques jours de suffisamment de matières fissiles pour fabriquer 15 bombes nucléaires. Ils disposent déjà de milliers de missiles balistiques et ils prévoient de les tripler au cours de l'année à venir. Cela représente une menace existentielle pour Israël. Il était temps d'agir. » Le chef d'état-major réalisé Amir, qui commande l'attaque contre l'Iran depuis la base de la Kiria à Tel Aviv, a déclaré « L'Iran est en grande difficulté stratégique et nous avons atteint le point de non-retour. Le moment est venu. L'opération a débuté cette nuit et évoluera en fonction des besoins. Nous sommes confrontés à un événement d'un autre genre et nous devons assumer une nouvelle responsabilité. Nous saurons donner l'alerte au moins 10 minutes avant un tir de missile en provenance de l'Iran. » À 2h35 du matin, 6 explosions sont entendues à Téhéran. Les attaques se concentrent donc sur les installations et les bases nucléaires. À 2h45, l'armée israélienne a officiellement annoncé que des dizaines d'avions de l'armée de l'air ont récemment mené à bien, sous la direction de l'échelon politique, une frappe préventive précise, fondée sur des renseignements de haute qualité qui visaient à endommager le programme nucléaire iranien et en réponse à l'agression continue du régime iranien contre Israël. À 2h50, un haut responsable israélien a déclaré que l'attaque contre l'Iran avait été coordonnée avec les États-Unis. Ces derniers jours, les membres du cabinet ont reçu des informations précises sur le calendrier et la nature de l'attaque. Ils ont approuvé les plans qui leur ont été présentés et depuis hier soir 20h, ils étaient réunis en session sans téléphone. À 2h54, le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré après le début de l'attaque que l'objectif de cette opération sans précédent était d'endommager l'infrastructure nucléaire iranienne. Il a ajouté que cette opération se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire. L'Iran dispose encore d'importantes capacités pour nous nuire, a-t-il dit, et nous y sommes préparés. Il s'est adressé aux citoyens israéliens, il leur a demandé de coopérer étroitement dans les heures et les jours à venir. À 2h58, l'agence Reuters annonce les explosions près de la centrale nucléaire de Natanz. Donc, on voit que tout ça s'est passé vraiment en quelques minutes. L'agence de presse Reuters a rapporté des explosions près de cette centrale nucléaire dans la région d'Ishpahan, au centre de l'Iran. Suite à cette attaque, le président américain Donald Trump a convoqué son cabinet. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré « Nous ne sommes pas impliqués dans des attaques contre l'Iran et notre priorité absolue est de protéger les forces américaines dans la région. Israël nous a informé qu'il estime que cette action est nécessaire à sa légitime défense. » Il a ajouté « Soyons clairs, l'Iran doit s'abstenir de nuire aux intérêts américains ou à notre peuple. » À 3h du matin, des milliers de réservistes israéliens ont été appelés, principalement dans des formations stratégiques de l'armée de l'air, du commandement du front intérieur, des commandements nord et centre, du renseignement militaire et des brigades anti-chars. L'armée israélienne a également renforcé la préparation de toutes les divisions en Judée-Samarie. À 3h18, une source de sécurité a déclaré qu'il y avait de plus en plus de chances que l'état-major iranien, y compris le chef d'état-major iranien et des scientifiques nucléaires de haut rang, avaient été éliminés lors de la première attaque. À 3h23, le site web du New York Times a rapporté que le complexe de Téhéran où résidaient ses hauts commandants de l'armée iranienne avait été attaqué. L'armée israélienne se prépare à partir de 3h30 à d'éventuels bombardements massifs depuis le Yémen par les Houthis et depuis le Liban, ainsi qu'à des opérations menées depuis la Syrie par des milices pro-iraniennes. À 3h31, un haut responsable israélien a déclaré qu'en plus de vastes frappes aériennes, le Mossad a participé à une série d'opérations antiterroristes secrètes sur place en Iran. À 3h46, la télévision d'État iranienne a rapporté que des informations indiquaient que le commandant des gardiens de la révolution, Hossein Salami, avait été tué. Des informations non confirmées faisaient également état de la mort de Fahreddin Abbasi, l'ancien directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, ainsi que du chef d'état-major iranien, Mohamed Bakari. À 3h52, une source sécuritaire a déclaré que le premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz avaient signé lundi dernier l'ordre de briefer Tsahal en coordination avec le chef d'état-major Eyal Zamir et avaient décidé de la date d'ouverture de l'opération comme prévu, c'est-à-dire cette nuit. Israël a déjà réalisé plus de 300 attaques en Iran au cours de cette nuit. Des réacteurs nucléaires ont été détruits. Plusieurs dizaines de scientifiques militaires et hauts responsables politiques politiques ont été savamment éliminées. Cette guerre a bel et bien été programmée dans le plus grand secret, minutieusement finalisée grâce à un travail des renseignements exceptionnels et puis surtout à un bluff bien joué par toutes les parties. En effet, les différentes informations souvent contradictoires diffusées cette semaine servaient à tromper la vigilance de l'Iran. Il avait été annoncé que le Premier ministre prendrait quelques jours de vacances dans le Nord ce week-end après le malaise qu'il avait fait cette semaine. Le mariage de son fils devrait avoir lieu ce lundi, mais c'est surtout la brouille entre Donald Trump et Netanyahou autour de la question iranienne qui avait été calculée afin de tromper l'ennemi et le public israélien qui se demandait comment Donald Trump pouvait avoir retourné sa veste si vite. Donald Trump qui disait qu'il préférait les négociations et la paix. Il avait donné 60 jours à l'Iran pour parvenir à un accord. Nous sommes également le 60e jour. On comprend aujourd'hui que tout avait été calculé entre les deux chefs d'État. Et puis cette nuit, au Kotel, Elsa, à Jérusalem, des prières et les sonneries du chauffard ont été sonnées toute la nuit. Le Premier ministre avait déposé hier un message entre les pierres du mur qui disait « C'est un peuple comme une lionne qui se lève et qui se dresse comme un lion. L'opération « Un peuple comme une lionne » a démarré en Iran. » Alors concrètement, que va-t-il se passer dans les prochaines heures? Tout d'abord, la ruée dans les supermarchés israéliens qui sont déjà ouverts a déjà commencé, mais les rues resteront vides comme au temps du corona, car les citoyens resteront chez eux à proximité de leurs abris. Il va falloir préparer les enfants au bruit des explosions qui risquent d'arriver. Dans les hôpitaux, des boules-quies ont été distribuées à tous les malades. Les Iraniens ont déjà menacé d'une riposte terrible qui touchera tout Israël pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Nous devons nous préparer à rester enfermés. L'Iran aurait déjà lancé 100 drones de type Shahed vers Israël que Tsahal cherche à intercepter. Ce n'est pas pour tout de suite car cela met du temps pour arriver. Cela peut prendre quelques heures, mais la défense civile nous préviendra quelques minutes avant. Et puis, on apprend que des missiles iraniens ont été lancés également vers des bases américaines en Irak. Les États-Unis ne vont pas rester sans riposter et ils seront aux côtés d'Israël dans cette guerre. Des avions de chasse américains sont déjà en vol pour intercepter les missiles lancés en direction d'Israël. Et l'on apprend en dernière minute que des avions saoudiens, émiratis et même qataris participent aux tentatives d'interception. Et puis il ne faut pas oublier que Tsahal a renforcé déjà cette nuit sa présence en Judée-Samarie en encerclant les localités palestiniennes pour éviter tout débordement possible. Nos frontières doivent être sérieusement infranchissables.
Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces explications. 8h12 sur RCG. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On décryptera aussi les enjeux de cet événement majeur avec Mohamed Sifaoui, journaliste et écrivain spécialiste du Moyen-Orient.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bain et déco.
Du coup, je pense que je vais chanter...
Non mais attention, c'est moi l'attention, hein. c'est pas la démocratie, c'est une dictature ici, c'est moi qui décide. Hein.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bondy et Friends, avec notamment Samuel Bondy, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés, soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr. Bambi, Paris.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
RCJ. 8h14 sur RCJ. Et cette opération lancée par Israël dans la nuit contre les sites nucléaires iraniens. On en parle à nouveau et c'est avec vous, Mohamed Sifaoui, journaliste et écrivain spécialiste du Moyen-Orient et de l'islamisme. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Mohamed, une question dans un premier temps. Quel était le bon moment, s'il y en avait un, et le fait qu'il y avait ces négociations en cours entre Washington et Téhéran, est-ce que ça a fait se dire à Israël, le fait que ça n'avance pas, que c'était le moment adéquat pour lancer cette attaque dont on parle depuis longtemps maintenant ?
Bah, d'une certaine manière, il fallait laisser sa chance aux négociations, même si il n'y avait... De mon point de vue, aucune chance pour que ces négociations aboutissent, puisque l'une des revendications légitimes du camp occidental, si j'ose dire, c'est que le régime iranien renonce à son programme nucléaire. Et ce n'est pas demain que ce régime pourrait renoncer à cet objectif qui est pour lui stratégique. Alors, est-ce que c'était le bon moment ? Probablement que, d'une part, l'opération de renseignement était complète parce que il faut voir la qualité de cette frappe. Il y a eu certes des cibles à la fois militaires et nucléaires qui ont été visées, mais il y a aussi pas moins de 6 scientifiques iraniens liés au régime, scientifiques nucléaires, qui ont été éliminés. Et par ailleurs, il y a eu une décapitation d'une partie de l'état-major, à la fois de l'armée iranienne et des gardiens de la Révolution, ce qui affecte considérablement. Pour ceux qui suivent ces événements depuis maintenant plusieurs années, voire notamment depuis le 7 octobre, peuvent observer qu'y, qualitativement parlant, il y a eu une opération qui similaire à celle qui avait visé en septembre 2024 la tête et l'élite du Hezbollah.
Donc ça a vraiment une chance, entre guillemets, de pouvoir fragiliser le régime des Mollahs. Et quelles conséquences ça pourrait avoir concrètement dans la région ?
Je pense qu'il ne faudrait pas faire l'erreur de croire qu'il s'agit d'une simple frappe militaire israélienne. Il y a une opération militaire d'envergure qui va probablement durer plusieurs semaines, à tout le moins. Il est évident que le régime iranien va riposter, et probablement dès aujourd'hui. Ils ont essayé de se réorganiser très vite après la perte des principaux dirigeants, notamment des gardiens de la Révolution et de l'armée. Ils ont nommé de nouveaux patrons de leur structure opérationnelle et militaire afin qu'ils puissent organiser une riposte. Il y a eu déjà le lancement d'une centaine de drones qui a été réalisé, et il y aura probablement d'ici ce soir, voire demain ou plus tard, une opération, je pense, aérienne notamment, qui pourrait viser le territoire israélien. Et par ailleurs, il faut bien observer les déclarations des représentants ou des porte-parole de l'état-major israélien. Il est dit clairement que ce n'est là que le prélude, je cite dans le texte, ou le préambule d'une attaque militaire qui va connaître d'autres opérations, là aussi probablement aujourd'hui. Alors, ce qui va se passer, à mon sens, c'est que les Israéliens vont d'abord voir comment les Iraniens vont riposter, quelle est leur capacité opérationnelle, et en fonction de cette riposte, ils vont soit accroître, soit affiner à la fois leurs opérations militaires.
On a vu déjà dès ce matin les réactions internationales qui ont été dans le sens de la condamnation d'Israël. Il y a quelque chose à dire, ça ne soulage pas le monde, en tout cas le monde occidental, qu'Israël procède à ça en ce moment. On a juste perdu la connexion avec vous, Mohamed, mais je vous demandais juste que...
Absolument pas. Moi, je suis toujours là et je vous entends.
Très bien.
Donc, je disais que il y a malheureusement des postures de la part de plusieurs dirigeants occidentaux qui sont tétanisés par leurs opinions publiques. Mais en vérité, les relations officielles, Je pense que l'écrasante majorité des capitales occidentales, à commencer par les États-Unis, mais aussi la France, la Grande-Bretagne, tout le monde soutient Israël, même si les déclarations officielles disent le contraire. Mais ça, c'est toute à la fois la schizophrénie et encore une fois, le double discours et l'hypocrisie qu'il y a autour de cette situation moyen-orientale où beaucoup sont contents de voir les Israéliens faire le boulot à leur place, mais comme je le disais, tétanisés par leurs opinions publiques, ils adoptent des postures parfois assez curieuses.
Dernière question, Mohamed Sifaoui, quel impact de cette opération sur la guerre à Gaza?
Je pense qu'il faut à la fois déconnecter d'un point de vue opérationnel, ce sont deux types d'opérations différentes, mais qui sont totalement complémentaires. Dans les différentes publications que j'ai faites, j'avais bien souligné que l'objectif stratégique des Israéliens était d'abord de démanteler complètement ce qui est appelé communément l'arc chiite, c'est-à-dire cet arc de proxy iranien qui est constitué, je le rappelle, des Houthis au Yémen, du Hamas et du djihad islamique à Gaza, du Hezbollah au Liban, des milices chiites, irakiennes et syriennes. Et évidemment que cette opération devait se poursuivre par l'affaiblissement à tout le moins des capacités d'une part militaires iraniennes, mais aussi par le fait d'affecter considérablement le programme nucléaire iranien et pourquoi pas créer une dynamique parce que les relations internationales et la géopolitique, c'est surtout une question de dynamique, faire en sorte à ce que des dynamiques soient enclenchées et qui permettraient peut-être à terme de faire chuter le régime des Mollahs.
Merci beaucoup Mohamed Sifaoui d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, 8h21. Restez avec nous sur RCJ, on se retrouve dans un instant.
Et si cet été, vous faisiez la plus belle des choses, offrir un été à ceux qui n'en ont pas? Un enfant qui découvre la mer pour la première fois. Une personne âgée qui découvre des visages, des voix, de la chaleur humaine. Une maman seule, soulagée de savoir qu'on pense à elle. Un ado en situation de handicap, accueilli dans un centre adapté. Avec le FSJU, chaque don transforme leur été. Un été pour eux, un été pour donner. Donnez sur fsju.org. FSJU, votre cœur a toujours raison.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
La 20e édition du Festival des Cultures Juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo, du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
8h23 sur RCJ, on est en direct d'Israël avec Alain Beit, président du Beit Haverim. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, on avait prévu, bien sûr, avec vous, de parler en partie de cette Pride de Tel Aviv qui était censée avoir lieu cet après-midi. Vous avez la confirmation, bien sûr, qu'elle est annulée.
Oui, c'est annulé, malheureusement. Il y avait déjà un peu toutes les premières festivités qui commençaient à s'organiser hier soir. C'était bien parti. Et c'est vrai que là, l'annonce de l'attaque à 3h du matin est venue interrompre tout ça, puisque les rassemblements publics sont interdits dans cette période-là.
Vous êtes en Israël dans le cadre d'une délégation. Est-ce que ça a pu quand même bien se passer cette semaine et qu'est-ce qui en est ressorti?
Alors, il y a, en effet, je suis le ministre des Affaires étrangères, a organisé 6 délégations LGBT, donc une européenne à laquelle j'appartiens, mais il y en a aussi d'autres. Il y a une nord-américaine, il y a une asiatique, il y a une australienne, une sud-américaine. Et donc, on est à peu près entre 80 et 100 personnes. Chacun a plus ou moins son propre programme, chaque délégation a son propre programme. Il y a des choses... là, par exemple, on a été, il y a 2 jours, au Festival Nova. Ça a suscité pas mal de choses et de commentaires, parce qu'il faut savoir que les membres de la délégation, un certain nombre ne sont pas juifs, donc ils viennent pour la première fois en Israël, ils découvrent, donc ils ont découvert cette horreur-là. Il y a aussi, on rencontre pas mal d'activistes LGBT aux quatre coins d'Israël, on a été aussi à Beersheba, on a été à Haïfa, donc ça permet aussi de voir, de situer un peu quels sont ces droits, les fameux droits LGBT qui sont en Israël. On a rencontré aussi, par exemple hier, Taline, qui est la Miss Trans 2016, qui est une arabe chrétienne, qui a raconté son parcours. Donc oui, ça éveille pas mal de curiosité et pas mal, je pense que ça fait écho à pas mal de choses dans la vie des LGBT qui sont membres de cette délégation.
Qu'est-ce que vous répondez à ce nombreux qui parlent de pink washing en parlant d'Israël, le fait que ce soit évoqué, que ce soit un pays assez ouvert, tolérant, qui reconnaissent quasiment hein, tous les droits des LGBT, que ce soit utilisé comme une stratégie pour redorer le blason d'Israël à l'international. Comment vous percevez cette accusation ?
Bah, je trouve que c'est un faux procès, puisque de toute façon, si Israël n'avait pas de droit LGBT, on dirait que c'est un état criminel à ce sujet. Et de toute façon, en même temps, par exemple, la Pride de Tel Aviv est une Pride qui est, de ce que j'ai compris, qui est très municipale, qui est très, qui est derrière le budget de Tel Aviv, donc qui est pas quelque chose au niveau national. Et ensuite, la Pride, quand même, montre une certaine réalité, une réalité des droits LGBT qui sont concrets, qui sont réels. Là, à Tel Aviv, je croise de nombreux couples de même sexe avec des enfants et ils sont protégés. Le mariage est reconnu à l'étranger. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau des droits. Donc, ils peuvent crier au pinkwashing, mais la réalité est là. Et Israël est le seul pays du Moyen-Orient à avoir à protéger ses citoyens LGBT, à protéger les citoyens LGBT aussi qui viennent de pays arabes et à avoir sa pride. Donc ça reste un fait et ce fait est capital.
Une dernière question sur cette affiche hein, qui a été beaucoup commentée, un affiche de l'intérêt LGBT pour la Pride de Paris cette fois, avec des symboles tels que le drapeau palestinien, des kéfiers, une femme voilée et un homme qui était un homme blanc en train d'être pendu. Est-ce que vous, ça vous empêche de participer à cette Pride et quelle perception vous avez de cette affiche ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette affiche, on l'a découverte dans l'Humanité. On nous avait soumis un brouillon quelques jours avant, auquel on a dit qu'on s'opposait. L'extrême violence de cette affiche me déplaît et je ne reconnais pas en tant que LGBT dans cette foule qui est autour de cette personne un peu cadavérique et qui se réjouit de le voir à terre. Je trouve ça d'une cruauté sans nom et que cet homme soit homophobe, facho, extrême droite, peu importe, on n'a pas à faire la fête autour d'un homme à terre. Après, il y a plein d'autres symboles qui sont mis dans cette affiche qui me conviennent pas. Effectivement, ils ont mis le drapeau palestinien, il y a les gilets jaunes, il y a même le triangle rouge arboré par Mélenchon. Donc ça ne nous convient pas. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on allait quand même maintenir notre participation à la marche des fiertés parce qu'on ne veut pas que cette marche soit récupérée juste par l'extrême gauche, par des personnes pro-palestiniennes qui ne montrent qu'une réalité déformée. Donc on veut être là, pour la diversité, pour la pluralité, pour l'arc républicain. Et on trouve au contraire que c'est encore plus important pour nous d'être visibles dans l'espace public avec notre Magen David qui est Rembo.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ, 8h28. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr à partir de 11h avec Sandrine Seban pour une édition spéciale consacrée à l'attaque israélienne sur des sites iraniens et la riposte iranienne qui est en cours. Bonne journée sur RCJ.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite? Gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
Du coup, je pense que je vais chanter...
Non mais attention, c'est moi l'attention, c'est pas la démocratie, c'est une dictature ici, c'est moi qui décide.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bambi et Friends, avec notamment Samuel Bambi, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés, soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr, Bambi, Paris.
Bonjour et bienvenue sur Radio J ce vendredi 13 juin 2025, 616e jour de guerre en Israël. Il y a toujours 53 otages dans Gaza, ne les oublions pas.
Le journal de 8h30 vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 30 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com, progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et toute l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Israël a donc frappé l'Iran cette nuit, nom de l'opération Lion qui se lève. 200 avions ont largué 100 munitions et l'Iran qui riposte ce matin avec 100 drones dans cette contre-offensive, des drones iraniens qui ont été lancés déjà il y a plusieurs heures et qui devraient atteindre Israël dans une à deux heures. Les hôpitaux sont en état d'alerte maximale et on sait aussi que depuis le début des attaques en Iran, les demandes de soutien psychologique en Israël ont augmenté de 500%. De son côté, Benjamin Netanyahou a pris la parole. Ce matin, il a évoqué une opération pour contrer une Shoah nucléaire de la part de l'Iran. On l'apprend à l'instant, le commandant iranien de l'armée de l'air des gardiens de la révolution a été éliminé dans ces opérations israéliennes. Le chef des gardiens de la révolution en personne, Hossein Salami, également, ainsi que des scientifiques du programme nucléaire iranien, plus de 10, les gardiens de la révolution ont juré de venger la mort de leur chef dans cette attaque israélienne. Et puis Israël appelle ses ressortissants à l'étranger et les juifs du monde entier à la plus grande vigilance. Les récents développements augmentent la probabilité que des éléments terroristes cherchent à commettre des actes de vengeance contre des cibles israéliennes, mais aussi juives dans le monde entier. Le Conseil national de sécurité israélien appelle aussi à éviter d'avoir sur soi des symboles qui peuvent attester de ça judéité. De son côté, Donald Trump va réunir aujourd'hui son conseil de sécurité nationale. Ce sera à 11h heure locale de Washington à la Maison Blanche, 17h heure de Paris. Le président américain a pris la parole ce matin sur Fox News pour affirmer que si jamais Israël était attaqué par l'Iran, les États-Unis se tiendraient de leur côté. Mais il avait aussi publiquement exhorté Israël à ne pas effectuer ses frappes contre l'Iran quelques heures avant leur déroulement. En tout cas, on a appris ce matin que la réunion de négociations sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran qui était prévue dimanche à Oman, eh bien cette réunion était annulée.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve tout au long de cette édition sur Radio J, édition spéciale consacrée à ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran. À tout de suite.
Le journal de 8h30 vous a été présenté en partenariat avec le Collège Tikva. Collège Tikva, le premier collège trilingue à Boulogne. Renseignements Collège Tikva sur collegetikva.com. 01 49 23 73 41. Collegetikva.com. Collège Tikva, parce que chaque élève est unique.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de votre fidélité. Ce matin, ne bougez pas. Dans quelques instants, notre invité, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Chen Feder. On va revenir évidemment sur cette attaque israélienne en Iran et les conséquences aussi pour les représentations israéliennes à l'étranger et pour les juifs du monde entier. Je vous dis à tout de suite.
Radio J.
14h-15h. Le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-france.fr.
Merci pour votre engagement. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J, édition spéciale consacrée donc à ce qui se passe actuellement. Israël qui a attaqué l'Iran, ça y est, et l'Iran qui de son côté a lancé plus de 100 drones vers Israël. On l'a appris il y a quelques secondes à peine, Tzal qui vient d'intercepter les drones iraniens au-dessus de l'espace aérien saoudien. Pour en parler, nous sommes avec Chen Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour Chen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, d'abord peut-être une réaction. C'était une opération inévitable aujourd'hui d'Israël en Iran, même si ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parle. 15 ans même, disait ce matin Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Opération donc inévitable donc.
Tout à fait. Dans le dernier mois, on a suivi un projet iranien très large, dans une façon très large, et il a trois parties. Le premier partie, c'est le sujet du missile balistique qui était ciblé aujourd'hui. Le deuxième partie, c'est l'enrichissement. Et Iran a obtenu assez matériel fusil pour 9 bombes atomiques. Et ça s'était touché cette nuit. Et la dernière partie, c'est l'armement, c'est mettre le missile et le bombe atomique dans le missile. Et ça, c'est une autre partie qui était ciblée cette nuit.
On a entendu le chef d'état-major de l'armée israélienne ce matin dire « on a atteint le point de non-retour avec l'Iran ». C'est-à-dire que désormais, les négociations, un accord avec l'Iran était impossible, il fallait attaquer coûte que coûte, hein.
En fait, ce qu'on a suivi, c'est que en même temps que les négociations étaient prises, et l'Iran a avancé énormément leur projet atomique dans ces trois différentes parties. Et c'est la raison pour laquelle c'était inévitable d'attaquer les sites nucléaires et le projet iranien.
Oui. Alors, justement, Benjamin Netanyahou l'a dit par ailleurs aussi ce matin, ce n'est pas une attaque contre le peuple iranien, contre les Iraniens, mais contre la République islamique d'Iran. C'est important de faire cette distinction, de le dire, de le répéter, hein.
Tout à fait. Et nous ne sommes pas des ennemis du peuple iranien. Il y a un régime de Mollah qui nous menace depuis longtemps, qui était derrière l'attaque de 7 octobre, qui ont lancé des missiles et des drones l'année dernière. Et c'est pas une menace théorique, hein. Et il faut toujours garder dans la tête que c'est une opération contre l'armée
et le régime.
Et plus spécifiquement contre le projet atomique de l'armée iranienne.
Alors cette opération d'ailleurs porte un nom assez symbolique, enfin chacun peut le comprendre comme il veut. C'est vrai que moi quand j'ai lu le nom de cette opération Rising Lion, l'opération Lion du Levant, le lion qui se lève, ça m'a fait penser à l'ancien drapeau iranien où on voyait justement un lion avec une épée et un soleil. C'est aussi un message qui est adressé aux Iraniens, peut-être de leur dire c'est le moment peut-être de se soulever avec Israël, de manifester dans les rues. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous l'interprétez?
Je ne sais pas. mais je pense que il y a toujours c'est pas le but de cette attaque, mais il y a toujours
un message subliminal peut-être
entre les deux peuples et pas entre les deux régimes.
Alors aujourd'hui, par ailleurs, l'Iran contre-attaque, hein, on l'a dit, Tzal a intercepté plusieurs drones au-dessus de l'espace aérien saoudien. En Israël, quelle est la situation? Comment les Israéliens vivent finalement la chose? Des consignes de sécurité particulières ont été données, hein?
Oui, il y a des consignes de sécurité, il y a beaucoup de gens qui sont partis dans le supermarché pour être prêts d'une attaque et on ne sait pas quand ça va terminer. Et je peux aussi dire que l'attaque contre l'Iran n'a pas nécessairement terminé non plus. Alors nous sommes aujourd'hui, ce matin, dans le début de notre opération. Et on va voir comment ça développe.
Oui. Et alors, quelles conséquences aussi pour les ambassades israéliennes à l'étranger? Parce qu'on a vu que le niveau d'alerte avait été relevé dans toutes les ambassades israéliennes et aussi pour les communautés juives. Est-ce que vous avez des consignes particulières aujourd'hui et dans les prochains jours?
Il faut être toujours très vigilant L'ambassade ne reçoit pas aujourd'hui des personnes pour les services consulaires. Et en général, je peux dire que nous sommes dans un haut niveau sécuritaire pour toutes les ambassades au monde. Et il y a des conseils sécuritaires que vous avez mentionnés qu'il faut suivre.
Un mot peut-être des États-Unis aussi, avant de nous quitter, Rennes. On a dit que c'était une opération unilatérale israélienne, c'est-à-dire que les États-Unis n'interviennent pas, mais on peut imaginer quand même que Donald Trump, que Washington a donné à demi-mot son feu vert à l'État d'Israël.
Écoutez, nous sommes en contact chaque heure avec les Américaines. Ils savaient très bien en avance que cette attaque va arriver. Et en même temps, j'imagine qu'il essaie de garder une position pour essayer de continuer des négociations. Mais il faut aussi dire que Trump a dit très clairement qu'il reste à la défense d'Israël, etc., etc. Et je pense que oui, c'était une attaque d'Israël contre l'Iran, mais ça n'a pas dit que les États-Unis n'est pas avec nous dans cette situation.
Et on sait que Donald Trump va réunir aujourd'hui en tout cas son conseil de sécurité nationale. Apparemment, les négociations qui devaient se tenir à Mascat, à Oman, ce week-end ont été annulées de ce qu'on entend. Donc, pas d'accord en vue avec les Iraniens. Merci beaucoup en tout cas, Ren Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, d'avoir réagi ce matin sur Radio J. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt et Shabbat Shalom.
À bientôt, Shabbat Shalom.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Je prie pour le peuple iranien, pour ce peuple fier, cultivé, qui a tant souffert et qui n'a jamais été l'ennemi d'Israël ni du peuple juif. Israël n'a pas frappé l'Iran, Israël a frappé un régime qui poursuit obstinément l'arme nucléaire, qui appelle à la destruction d'Israël et qui piétine son propre peuple depuis plus de 40 ans. C'est ce qu'écrit ce matin sur ses réseaux sociaux Simone Rodan-Benzaken de l'American Jewish Committee. Elle est avec nous justement en direct ce matin sur Radio J. Bonjour Simone.
Bonjour Ilana.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on va peut-être commencer par ça. C'est important de le dire, ce n'est pas une attaque contre le peuple iranien, c'est une attaque contre les gardiens de la révolution, contre les installations nucléaires iraniennes qui abîment le pays depuis plus de 40 ans maintenant.
Absolument, et je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter. De la même manière que le monde entier a été pris en otage, et Israël bien évidemment en premier par ce régime, le peuple iranien a été pris en otage depuis plus de 40 ans par ce régime qui le martyrise. Aujourd'hui, cette attaque est une attaque contre les installations nucléaires, contre ce régime qui a décidé de mener une guerre de destruction à l'État d'Israël et au peuple juif. Et donc Israël n'avait pas... Mais il est évidemment clair que c'est une, encore une fois, une attaque contre le régime et pas du tout contre le peuple. Et au contraire, j'espère que ce sera l'occasion enfin pour ce peuple de se libérer de ce régime. Quand vous regardez déjà les réseaux sociaux, vous voyez des gens dans les rues se réjouir quand ils voient que les attaques ont notamment ciblé des dirigeants de la République islamique d'Iran. C'est là où on voit qu'en réalité, on le sait, plus de 80% de la population iranienne est contre ce régime.
Et on espère que les Iraniens vont s'organiser. On a entendu Mona Jafarian ce matin nous dire qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle avait prévu, mais en tout cas, des choses sont effectivement prévues. Est-ce qu'on a une idée de l'impact justement de ces opérations actuellement contre l'état-major iranien? À quel point ça leur fait du mal ce qui se passe en ce moment et à quel point ça va pouvoir changer la situation? Est-ce qu'on a une idée, Simone?
Écoutez, on verra, il y a au fur et à mesure des informations qui arrivent, mais effectivement, il semblerait que l'attaque a été extrêmement bien préparée, que à la fois l'armée, le Mossad ont très bien travaillé ensemble. Je ne pense pas que cela va être une attaque qui va juste s'arrêter là. Elle va probablement durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'objectif est très clair, c'est de décapiter le régime et de faire en sorte, en tout cas, que la menace contre Israël, et notamment sur la question nucléaire, ne puisse plus perdurer. Voilà, c'est ça. Mais je pense pas que ça va s'arrêter maintenant, là, tout de suite.
Et on parle aussi des États-Unis dans ce contexte, parce qu'on a entendu ces déclarations un peu contradictoires finalement hier. Mike Huckabee qui disait que c'était pas pour tout de suite. Est-ce que c'était peut-être une manière d'enfumer le régime iranien? On a du mal à imaginer que les États-Unis n'aient pas pu être au courant de ces frappes quand même, Simone.
Non, il paraît assez clairement que cela a été en tout cas coordonné, qu'en tout cas les Israéliens ont tenu au courant les Américains. Il y a effectivement la question de l'enfumage, en tout cas de la communication qui a été faite autour. Et cela paraît assez évident quand on sait qu'il y a eu des discussions, notamment au plus haut niveau, entre le président américain et le premier ministre israélien. En dessous, entre Ron Dermer et ses interlocuteurs aux États-Unis, il me semble assez clair que les Américains étaient au courant.
Et il devait y avoir d'ailleurs des discussions à nouveau ce dimanche à Mascate, à Oman, entre Iraniens et Américains. Visiblement, là, j'imagine que c'est annulé.
J'imagine effectivement que cela est annulé. Ça semble un peu superflu. Encore une fois, depuis plusieurs jours, il est devenu assez évident, notamment aussi avec le rapport de l'Agence atomique internationale, ce qui est en train de se passer, que le régime iranien avait accéléré très fortement et très clairement la nucléarisation d'avoir la bombe en Iran. Donc encore une fois, il était devenu assez évident que les négociations n'allaient nulle part. Le président Trump avait mis comme exigence notamment le fait que les Iraniens ne puissent pas enrichir sur leur sol. Les Iraniens l'avaient plus ou moins très clairement exprimé que cela a été impossible comme concession de leur côté. Donc voilà, il me paraissait depuis plusieurs jours assez évident qu'on allait vers cette direction-là.
C'est le début de quelque chose peut-être de plus grand. Alors certains parlent même de troisième guerre mondiale désormais, même si pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de réaction des Européens. Il y a eu une réaction évidemment des États-Unis, réaction de certains pays arabes, l'Arabie Saoudite, d'ailleurs les Émirats, qui ont condamné cette attaque israélienne. C'est assez surprenant d'ailleurs, on peut se poser la question, puisqu'on sait qu'il n'y a pas vraiment d'amitié entre l'Iran et les pays arabes du Golfe. Comment vous regardez ça d'ailleurs, avec quel œil? Est-ce que c'est une posture de la part de ces pays arabes?
Oui, je pense que c'est une posture. D'ailleurs, quand vous regardez par ailleurs sur les réseaux sociaux, nombreux sont les différents la population arabe qui se réjouit de ce qui est en train de se passer. En réalité, je pense que Israël, en tout cas, est dans une posture, dans une position stratégique qu'elle n'a jamais eue depuis des décennies en réalité. On savait que il y avait à un moment le danger, effectivement, la nécessité potentiellement de devoir frapper la République islamique d'Iran. Et ce qu'on craignait quand même depuis des années, c'est ensuite la riposte, notamment à travers les proxys dans la région, notamment bien évidemment en premier lieu le Hezbollah au nord. Depuis ces derniers mois, que plus ou moins le Hezbollah a été décapité, que le Hamas a été fortement affaibli à Gaza, que la Syrie a les forces iraniennes n'ont plus la même présence. Voilà, la menace n'est plus tout à fait la même. Il y a bien évidemment encore la question des Houthis au Yémen. Il y a bien évidemment encore la question de ce qui se passe, va se passer avec les forces chiites en Irak. C'est très important. Il y a aussi la capacité ensuite de la République islamique d'activer, notamment un peu partout dans le monde, ses capacités terroristes contre les cibles israéliennes, mais aussi juives. Donc tout ça est bien évidemment présent. Mais en tout cas, la situation stratégique d'Israël aujourd'hui est bien meilleure qu'elle a été encore il y a un an ou deux ans. Donc moi, je crains les choses beaucoup moins que j'aurais pu les craindre il y a encore un ou deux ans.
Ouais. Alors, un dernier mot aussi, un dernier point sur les conséquences désormais pour le monde, pour les Juifs aussi du monde entier. On a vu qu'Israël avait appelé ce matin ses ressortissants à l'étranger et les Juifs du monde entier à la plus grande vigilance. Toutes les communautés sont appelées à la plus grande vigilance. Est-ce que, justement, vous allez mettre en place au sein de la JC peut-être des dispositions, des choses pour protéger les communautés?
Oui, bien évidemment. Et c'est pas nouveau. Et la réalité, c'est que nous, chez AJC, nous demandons notamment aux différents gouvernements européens d'agir depuis des années. La réalité, c'est que nous savons que la République islamique a pour objectif d'attaquer des cibles juives un peu partout en Europe. Ils ont déjà essayé. Il y a eu un procès, notamment en Allemagne, avec une attaque contre une synagogue à Bochum. Donc, on le sait, il y a eu des cibles en Angleterre, un peu partout. Donc, évidemment, il y a un très grand danger et évidemment, j'appelle à la plus grande vigilance parce que, compte tenu de la situation actuelle, il n'y a aucun doute que le régime va essayer d'activer les cellules un peu partout dans le monde et notamment ici en Europe.
Eh bien, merci beaucoup, Simone Rodan-Benzaken de l'American Jewish Committee. Merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir réagi. On continuera à suivre tous ces développements à vos côtés, tout ce qui se passe en Israël. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et Shabbat Shalom.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J, 8h51, bientôt la fin de cette édition spéciale de ce qui se passe actuellement entre Israël et l'Iran. Ces frappes israéliennes en Iran, ça y est, elles ont commencé à 3h du matin cette nuit. Les Israéliens en état d'alerte. Pour en parler, nous sommes avec Ilan Klein, directeur adjoint du département international du Magen David Adom, Israël et secouriste. Bonjour Ilan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Important de vous entendre aussi, de vous entendre concernant ce qui se passe pour les Israéliens. On sait que le pays est en état d'alerte maximale. Est-ce que le Magen David Adom est déjà sur le pont peut-être pour répondre aux demandes, aux inquiétudes des Israéliens?
Oui, depuis 3h du matin, le Magen David Adom a élevé son état d'alerte au niveau maximal. On a équipé toutes les ambulances, on a plus que 2000 ambulances et unités mobiles de soins intensifs équipées avec les secouristes, avec l'équipement médical et sont prêts à réagir. Bien entendu, les motos, les scooters médicalisés sont déjà sur le terrain pour arriver le plus vite possible dès que nécessaire. Et l'unité des premiers intervenants est aussi sur le terrain pour pouvoir réagir rapidement.
Alors le site Arutz Sheva nous fait part par ailleurs de cette information. Depuis le début de l'attaque en Iran, il y aurait eu une augmentation de 500% des demandes de soutien mental. Est-ce que vous pouvez en témoigner? C'est intéressant aussi de prendre la température du côté des Israéliens. Comment on réagit en Israël à cela?
Oui, alors aussi nous, dans nos standards, on reçoit des téléphones avec des personnes, avec des situations mentales. Bien entendu que on donne les premiers secours et si nécessaire, on envoie aussi des équipes sur place. On peut dire que c'est quelque chose de différent. Alors les gens ne connaissent pas trop, alors ils sont un peu plus stressés. Mais on espère que ça va passer aussi. De notre point de vue, le grand challenge sera quand des grosses missiles vont tomber ici en Israël, et ça sera les secouristes du Magen David Adom de nouveau sur le front pour sauver des vies.
Mmh. Alors évidemment, aujourd'hui, on attend toujours l'interception de ces drones iraniens qui ont été lancés il y a plusieurs heures sur le territoire israélien. Certains ont déjà été interceptés au-dessus de l'espace aérien saoudien. Vous remarquez des différences quand même aujourd'hui avec ce qui se passe, parce que c'est une situation quand même assez inédite. Hein, Ilan, est-ce que vous, en tant que secouriste, vous avez peut-être pris des dispositions spéciales? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose de différent ce matin qui a changé?
Oui, pour nous, c'est différent. Pour nous, c'est quelque chose du point de vue d'ampleur beaucoup plus important. Pour nous, on a dû envoyer beaucoup de personnes sur le terrain. Alors, bien entendu, nous tous avec les gilets pare-balles et les casques. Mais on comprend qu'on fait face à des grosses missiles. Et on comprend que la situation, cette fois-ci, pourra être différente. Alors, on a renforcé un peu partout et maintenant il faut attendre pour voir la situation. Mais on est sûr de notre point de vue que dès qu'il y aura besoin du Magen David Adom, on sera là, disponible très rapidement.
Eh bien, merci beaucoup Ilan Klein. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci d'avoir réagi effectivement dès les premières heures ce matin. Ce sont 35 000 employés bénévoles du Magen David Adom qui se sont préparés à fournir des réponses médicales rapides et efficaces à tout besoin. Le Magen David Adom toujours sur le pont pour les Israéliens. Merci infiniment Ilan, je vous dis Shabbat Shalom et à très bientôt. Merci.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilan Aferradio. Édition spéciale.
Et oui, édition spéciale, toujours, il nous reste environ 5 minutes pour faire un dernier point de l'actualité. L'Iran qui a lancé plus de 100 drones vers Israël, qui a commencé à les intercepter en dehors du pays, donc notamment au-dessus de dans l'espace aérien saoudien. Et le ministre iranien de la Défense qui s'est exprimé il y a à peine 3 minutes. « Nous avons la capacité de continuer à combattre pendant des années », dit-il, le ministre iranien de la Défense. « Nous avons récemment mené des essais réussis et transféré de nouveaux équipements aux unités combattantes. Les criminels sionistes, je cite, doivent s'attendre à une riposte forte et écrasante. L'armée, visiblement, le ministère iranien qui sont en train de s'exprimer, qui ont confirmé par ailleurs le grave coup qu'ils ont pris ce matin avec l'élimination de plusieurs scientifiques iraniens notamment, et Mohamed Bagheri, le stratège des forces armées israéliennes, qui a été tué cette nuit. On va pas faire son portrait parce que ça va être un peu long, mais son rôle dans le développement du programme balistique iranien a contribué à faire de lui une cible majeure pour Israël et les États-Unis. Il y a Bagheri, il y a également Salami. Oui, je sais que ça peut faire rire hein, ce nom, effectivement. Mais il y a beaucoup de responsables iraniens qui ont été éliminés ce matin. Et aujourd'hui, le peuple iranien, peut-être, va se soulever, va en tout cas se relever. On sait que ce n'est pas forcément évident aussi de manifester dans un pays, une dictature comme l'Iran. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'a dit ce matin, ce n'est pas une attaque contre les Iraniens, contre le peuple iranien, c'est une attaque contre la République islamique d'Iran qui oppresse depuis plus de 40 ans maintenant le peuple. Et je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs, même en Israël finalement la diaspora iranienne est assez on va dire contente de ce qui se passe. Il y a eu ce moment à la télévision en Israël, on a entendu Benny Sabti, notamment expert des questions géopolitiques, né en Iran en 1972, israélien, hein, qui a fui son pays pour Israël en 1987, qui s'est adressé en persan aux Iraniens. Israël a fait le premier pas, vous souffrez de ce régime depuis trop longtemps, nos deux peuples ont le même problème, saisissez cette chance et débarrassez-vous d'eux. Voilà ce qu'a dit donc Benny Sabti à un moment assez unique à la télévision israélienne et assez émouvant. Vous restez avec nous sur Radio J, c'est déjà la fin de cette édition. Tous nos programmes à retrouver sur notre chaîne YouTube et notre live de 3 heures aussi, et on est tout de suite avec Léa Moscona. Bonjour Léa.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Je ne vous ai pas rendu votre place ce matin.
Non, écoute, je ne suis pas déplacée. Je suis bien partout.
Comment ça va Léa?
Eh bien écoutez, ça va bien en cette journée un petit peu...
envie de souffler là.
Oui, difficile, dynamique. On va parler, il y aura un petit peu de thèmes sur l'Iran dans notre matinée bien évidemment. Notamment, un jour une synagogue avec Maya Brodsky. On va aller visiter une synagogue de Téhéran. Et puis faire un petit peu le point sur les Juifs en Iran, leur vie.
Eh bien voilà, bah ça va nous faire du bien parce que là depuis ce matin on parle de missiles, on parle de guerre, on parle de riposte. Là on va
vous faire du bien.
On va s'apaiser. On va s'apaiser. Eh bien Léa, voilà. Je vous dis à tout de suite.
À tout de suite
avec
Ilana.
Grand plaisir.
Merci.
Les infos week-end. Eva Soto.
Tous les dimanches, je vous donne rendez-vous à 6h20 et à 8h20 avec l'écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien Vladimir Fedorovski, le personnage emblématique de la perestroïka, décryptage, histoire, anecdote. C'est tous les dimanches sur Radio J.
Radio J. Radio J. Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin...